franceinter.fr.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie ?
L'écologie.
Et dans l'écologie, la diététique ?
C'est passionnant, ça.
Vous connaissez la doctoresse Kousmine ?
Non.
C'est un génie.
Et la macrobiotique ?
Ça, oui, un peu. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là ?
Ils disent qu'on mange de la merde.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 de mon amour, avec aujourd'hui Michel Thomas et Grégory Wallon à la technique et assisté de Aude-Émilie Judaïque, sans oublier Albert Houck du Maine-et-Loire. C'est Christophe Imbert qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur. Il y a quelques semaines, je vous parlais d'un avion solaire qui traversait les États-Unis d'ouest en est. Eh bien, aujourd'hui, l'épopée est bien plus modeste et l'aventurier a les pieds solidement ancrés sur le continent européen. Ou plutôt les sabots, car notre héros du jour est un âne. Parfaitement un âne, mais pas n'importe lequel. Car il s'agit du premier âne solaire du monde. C'est un âne macédonien qui se promène en portant sur ses flancs, non pas notre vieux monde, mais deux panneaux solaires. Panneaux qui évoquent, si l'on fait un petit effort d'imagination, les ailes du célèbre cheval mythologique, d'où le nom de Pégase dont hérité notre bête à longues oreilles. Et que fait donc ce baudet avec son curieux harnachement ? Eh bien, il apporte la fée électricité dans les coins reculés de la montagne macédonienne où souvent l'énergie électrique provient de Pétaradan, groupe électrogène. Alors la bestiole ne peut pas être assimilée à un Pégase à effet de serre. Bah non, voilà, je ne vais pas vous la refaire, mais enfin très bien. Donc à l'inverse de la fourmi qui, comme nous l'a révélé La Fontaine, n'est pas prêteuse, eh bien l'âne, lui, est un bon bougre. D'ailleurs, Pégase ne jure que par le partage. Et oui, les bonnes gens qu'il croise sur la route du Placide, qui croisent sur la route le Placide quadrupède, sont invités à brancher. Alors qui son téléphone portable, qui sont ses cheveux, sa scie sauteuse sur l'attirail de l'animal qui compte son lot de prises de courant et de prince crocodile, de pince crocodile. Le soleil est à tout le monde, l'énergie qu'il délivre aussi, et pour peu que l'exigence reste modérée, car la puissance quand même maximale délivrée par les deux panneaux n'excède pas 1000 watts, cette borne électrique itinérante est en mesure de rendre pas mal de services, notamment à des bergers isolés en altitude. Et ce concept d'âne solaire a été imaginé par un scénographe qui s'appelle Arnaud Verlet, et Philémon, qui est un artiste plasticien. Ils ont été sensibilisés donc à la fin annoncée des énergies fossiles, et au retour, qui n'est pas exclu, des locomotions lentes. Et nos deux pères ont cherché à articuler ces deux faits à notre attirance constante pour de nouveaux appareils électriques. C'est ainsi qu'ils sont parvenus à cet âne du futur, à cet hybride, on va dire, mi-poil, mi-silicium, qui broute en pleine lumière pour mieux recharger ses batteries et en faire profiter les autochtones. Alors, peu importe que les panneaux soient fabriqués en Asie ou en Europe, on ne va pas chinoiser sur l'origine modérément contrôlée de ces panneaux. Mais dans de nombreux pays du Sud, eh bien, les ânes sont des bêtes, on ne sait de somme, qui ne dorment guère, tant ils sont sollicités pour d'innombrables tâches. Et voilà qu'un nouveau débouché s'offre à la filière asine. Et oui, oui, il faut aussi savoir qu'un tel équipage, eh bien, attise la curiosité, comme quoi les âneries ne sont pas à blâmer, puisqu'elles peuvent aussi favoriser l'hospitalité. Cette expérience aura en tout cas réussi l'improbable synthèse entre la vélocité de la lumière et l'éloge de la lenteur. Et donc, qui a dit que les énergies renouvelables méritaient juste un bonnet d'âne ? Rapprochez-vous, cher Frédéric Danhé, du micro. Bonjour Frédéric Danhé.
Bonjour Denis Chessou.
Alors nous allons avec vous, donc vous intervenez régulièrement dans cette émission. Je rappelle que vous êtes ingénieur en environnement. Et puis après, bah, vous avez mal tourné, vous êtes devenu journaliste, écrivain.
Enfin,
bah,
oui, oui.
Voilà. Et puis auteur d'un certain nombre de livres. Et on va bien sûr ouvrir ce dernier ouvrage que vous avez écrit chez Delachaux et Niestlé qui s'appelle OGM, le vrai du faux. Mais comme vous êtes un gars du Nord, vraiment un ch'ti, ouais, vous aviez envie de rendre un tout petit hommage rapide à Pierre Morrois. C'est pas exactement dans cette émission-là qu'on le fait, ça a été fait beaucoup, mais quand même.
Non, histoire de dire que Morrois n'était pas un OGM, c'était pas un socialiste génétiquement modifié, c'était un socialiste à peine hybridé, c'était juste un socialiste, un homme de bien, il était de mon coin, comme on dit, et depuis, les frites pleurent, les moules se referment, mais la mer art de l'eau, il aimait aller, chante, va dormir, mon gros quinquin, t'as fait ton temps, donc voilà, on est tous tristes dans le Nord.
Voilà, merci Frédéric Danhé. Et donc, si on part sur ces fameux OGM, ce que vous avez voulu faire quand même dans cet ouvrage, ça s'appelle Le vrai du faux, c'est faut quand même bien dire que le sujet est extrêmement polémique. C'est-à-dire qu'en général, en France, on est pour, on est contre. C'est à peu près ça, on est très très manichéen. On touche à la fois à la frontière de la science, du social, du politique, de la philosophie, de nos espoirs, de de nos peurs. Et vous avez dit, on va quand même partir sur quand même quelques faits. Alors, la définition, on la rappelle très rapidement. On sait qu'un OGM, c'est un, on va dire, un être vivant dont l'ADN a été modifié par l'homme et seulement par lui. Donc, ce n'est pas issu de l'ère du temps, d'un aléa, de l'évolution darwinienne, mais d'un ingénieux bricolage. Et on passe ainsi la barrière des espèces. Je dirais qu'on en reparle parce que le détonateur dans cette émission, d'ailleurs, on l'a complètement relayé, parce qu'on avait eu Corinne Lepage, Éric Serralini, le Nouvel Observateur, Stéphane Foucard, au mois de septembre 2012. Donc, il y avait eu vraiment tout un foin sur l'opération d'Éric Serralini. On avait vu les fameux rats en question. Et puis, bah oui, ça a démarré au quart de tour. Le Nouvel Obs se titrait « Oui, les OGM sont des poisons ». Donc, ça a porté sur un seul organisme transgénique. Et ça a été repris par l'ensemble des médias.
Mais oui, c'est assez effarant. Alors, la France est un pays manichéen. On est pour, on est contre, on est collabo, on est résistant. Point final. Dès lors que vous avancez des faits, vous êtes dans le no man's land entre deux tranchées. Donc, bah, vous êtes mauvais des deux côtés. Voilà. Et donc ça, ce genre de position m'énerve. Et c'était particulièrement énervant, effectivement, après la publication de Gilles-Éric Serralini, qui est une publication scientifique de qualité, il n'y a rien à en dire, si ce n'est ce qu'on en a fait et ce qu'on lui a fait dire. Serralini lui-même, d'ailleurs, a fait dire à sa publie beaucoup plus qu'elle ne raconte. Effectivement, les photos de rats avec des grandes tumeurs, il dit lui-même dans sa publication que ce sont des cas très rares. Alors pourquoi avoir mis ça en photo? Et puis effectivement, le Nouvel Observateur a fait une généralité extraordinaire à partir d'un gène transféré d'une espèce à une autre. Point final, c'est pas sérieux scientifiquement et encore moins journalistiquement d'étendre ça à l'ensemble des OGM. Effectivement, tout le monde s'est emballé, le monde politique s'est emballé immédiatement pour soutenir Serralini, qui a immédiatement été transformé en chevalier blanc de la vie, de la planète, face évidemment aux méchants qui contredisaient ou qui juste avaient un doute. Vous avez cité Stéphane Foucard du Monde, qui avait juste un doute, ou Sylvestre Huet-Alibé, sur la portée de la publication et s'interrogeait simplement sur ce qu'on en a fait. Ça ressemblait plus à une opération de communication, voire de propagande, qu'à une simple publication scientifique.
Et en même temps, ça a secoué évidemment pas mal de gens, parce que ça a permis quand même de parler d'autres techniques, d'autres méthodes agricoles, sans pouvoir y revenir. Donc voilà, quoi qu'il arrive, on a remis ces OGM sur la table. Dans le monde, on sait que ça concerne le soja, le coton, le maïs et le colza principalement. Donc énormément pour le coton, 82% des OGM.
Oui, le soja, 75%.
C'est ça. Nous, on rappelle quand même en France qu'on a 2/3 des importations de soja qui est OGM. C'est-à-dire qu'on a une dépendance quand même aussi à ces OGM pour le bétail.
Mais oui, on a une dépendance envers les tourteaux de soja, alors qui est en partie liée au plan Marshall. Voilà, il n'y a pas de droit de douane sur le soja exporté des États-Unis. Et puis la majeure partie de ce soja est OGM. Donc de toute façon, nos vaches, quand bien même sont-elles en pré sur des prairies, dès lors qu'elles mangent en ensilage l'hiver des tourteaux de soja, pour supplémenter leur alimentation, elles mangent des OGM. Donc de toute façon, l'ensemble des produits laitiers et carnés provenant des vaches sont très certainement, entre guillemets, contaminé par des gènes étrangers.
Alors dans ce livre, vous rappelez aussi donc les faits, on va dire simplement scientifiques. L'histoire des OGM est d'abord celle de l'ADN. Moi, j'ai envie de faire une petite incise quand même, parce que sur un homme qui s'appelle Gregor Mendel. C'était un Autrichien et ça nous emmène à la moitié du 19e siècle.
Ça nous emmène en 1850. Alors, monsieur Mendel était effectivement... C'était une espèce de Jean-Marie Pelt qui vivait dans un monastère à Brno, B-R-N-O, en République tchèque.
Et il était donc un scientifique.
Donc un scientifique. C'était à la fois un moine et un scientifique qui travaillait, qui s'interrogeait, comme tout le monde à l'époque, sur l'hérédité des caractères. Et pour essayer de comprendre cette hérédité, il a croisé des plans de pois différents. Il y avait des pois lisses, il y avait des pois ridés, il y avait des pois gros, il y avait des pois petits. Et en 1866, il a publié ses travaux qui, à l'époque, n'ont inspiré personne. Oui. Et ça a fondé la génétique qu'on apprend en fac. C'est-à-dire, vous avez un caractère dominant, vous avez un caractère récessif, ils vont se marier et ça va donner dans la descendance un mélange de caractères ou alors pas de mélange du tout. Mmh. Je résume à l'extrême pour ne pas entrer dans les détails. Et c'est la fondation, c'est là même de la génétique. C'est ensuite, beaucoup plus tard, qu'on a redécouvert ces travaux et qu'on a mis un doigt sur ce qui portait ces caractères. Ce qui porte ces caractères, c'est le gène.
Alors, pour rester dans une échelle de temps un peu différente, les partisans des OGM vous disent on en fait depuis le néolithique, ces OGM.
Non, c'est faux. Alors, effectivement, si on se place sur une échelle de temps très longue, oui, les variétés et les races domestiques d'aujourd'hui ont été génétiquement modifiées. Mais elles ont été génétiquement modifiées avec la sanction du temps, c'est-à-dire dire que c'était à base d'observation que les cultivateurs et les agriculteurs mariaient des variétés et des races. Au départ, ils ont marié des espèces différentes, mais étaient quand même très très proches d'un point de vue génétique. Et puis, la sélection se faisait sur plusieurs générations, se faisait sur plusieurs décennies, voire sur plusieurs siècles. Le cas typique, c'est la sélection, c'est la transformation entre guillemets du loup en chien et l'arrivée de toutes les races domestiques de chiens. Ensuite, au 19e siècle, grâce aux travaux de Mendel, on a pu sélectionner de façon plus précise, on a pu sélectionner des caractères purs. C'est-à-dire sélectionner, pour reprendre l'exemple de Mendel, un poids lisse plutôt qu'un poids ridé. Voilà. Mm-hmm. Sélectionner une grosse vache plutôt qu'une petite vache, tout ça dans la même espèce. Et on a pu ensuite marier ces caractères entre eux pour affiner à chaque fois, augmenter à chaque fois la probabilité d'obtenir un hybride intéressant. Ce qu'introduit les OGM, c'est un temps qui est beaucoup plus court. Là, on est à l'échelle de quelques mois pour l'expérimentation laboratoire, il y a quelques années in fine. On est sur un temps beaucoup plus court et on ne joue pas là sur un paquet de gènes, parce que tout se faisait au hasard.
Mais sur un seul.
On est sur un seul. Ouais. On est sur un seul.
On prend des ciseaux.
On prend des ciseaux. Allez. On met en gros une lumière rouge derrière, une lumière verte à l'avant, histoire qu'on voit bien où le gène va s'insérer. Et on le transfère via une bactérie dans une autre espèce. Ça aussi, c'est la deuxième différence. C'est que là, on s'est affranchi de la barrière des espèces. Donc, on s'affranchit du temps. On s'affranchit de la barrière des espèces. Et on prétend s'affranchir de ce qu'est ce qu'on appelle maintenant la génomique, c'est-à-dire l'écosystème du gène. C'est-à-dire, oui. On a trop dans la tête qu'un gène égale une fonction, un gène égale un caractère.
Or, non, il y a un milieu.
Il y a un milieu, c'est-à-dire que le gène va coder sa protéine, certes, mais pour que cette protéine corresponde exactement à ce qu'il y a dans son programme, eh bien, il faut que le gène soit entouré de ses petits copains. Mm-hmm. Il y a une écologie du gène.
J'allais presque dire qu'on s'en remet à la nature, parce qu'on bricole, et puis après...
De toute façon, c'est la nature qui décide. Le chercheur de Monsanto, de BASF ou de Syngenta ou de l'INRA qui travaille dans un laboratoire public, il doit, pour voir si le gène s'est bien exprimé, s'il s'est bien inséré, il est obligé de planter. Et quand il plante, eh ben on en revient à ce qu'on fait depuis 12 000 ans. Quand il plante, eh ben il laisse, entre guillemets, à la nature, même si la nature est sous serre, il laisse à la nature le soin de décider si tout cela est viable. Et l'étape suivante, c'est la culture à l'extérieur pour voir comment tout ça réagit dans le milieu naturel.
Voilà, donc on va poursuivre ce voyage au milieu des OGM. Et puis, une musique avec une jeune femme, à mon avis, qui n'est pas complètement hybridée. Ça doit être Olivia Ruiz, semble-t-il. Oui.
Je pense à tes reins, je pense même à tes genoux. Ce qu'ils en pensent, je m'en balance. Moi, je suis si bien sur ton vélo. Je me sens comme un courant d'air. Quand tu pédales, le Cuba est beau, comme 60 ans en arrière. Je m'en fiche si tu te moques de moi. Je m'en fiche si tu te joues de moi. Je m'en fiche, moi je te... Je pense à ton accent qui me donne chaud, même quand je comprends tout de travers. Je pense à ton sourire idiot quand l'avion est parti sans moi hier. Je pense à tes mains sur mon dos, maladroite mais pas peu fière. Elles ont su trouver les mots. Je m'en fiche si tu te moques de moi. Je m'en fiche que tu te joues de moi. Je
Olivia Ruiz, je disais, c'est pas un hybride. Si, on est tous plus ou moins des hybrides, simplement, nous sommes dans la même espèce. En tout cas, c'est un très bel hybride, c'est Olivia Ruiz. Je m'en fiche, choisi donc par Jean-Baptiste Audibert, aussi excellent programmateur, sur France Inter. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va pas faire que ça, mais quand même, OGM, le vrai du faux, de la Chou et Nestlé, avec Frédéric Dan. Et vous reviendrez la semaine prochaine pour aussi d'autres sujets avec Yann Kefelec, je tiens à dire, qui sera rédacteur en chef de cette émission, comme ça vous le savez déjà. Et alors, avant de passer sur toutes les questions que l'on se pose quand même sur les OGM, l'utilité en médecine quand même des OGM.
Ah bah, les premiers OGM étaient des OGM médicaux, on ne le sait pas, mais de plus en plus de molécules utilisées en médecine, en particulier en médecine clinique, sont produites par des organismes génétiquement modifiés qui sont des colibacilles. Ce sont des colibacilles qui fabriquent notamment l'insuline. C'est voilà, des colibacilles, ce sont
donc pour
des
la dialyse et diabète. Hein,
ce sont des bactéries, ce sont des champignons qui sont modifiés en laboratoire et qui produisent ces médicaments qui nous sont utiles. C'est l'insuline, donc ça date de 78. C'est, tiens, le PO.
Ah oui, voilà. Le PO pour les coureurs cyclistes.
Qui sont eux-mêmes.
Qui sont... un peu détourné, quand même.
Oui, voilà, le PO qui est.
Ils n'en sont plus à ça maintenant, ça c'est pour uniquement les cadets.
C'est vrai.
Ça.
Bah, oui, ils sont quand même génétiquement modifiés, les coureurs.
Ah, bah, bien sûr.
Monter le Tourmalet avec une puissance de tracteur,
c'est ça.
C'est assez étonnant.
Bah, il sert qu'il le monte plus vite que moi je le descends. Donc,
oui, ça, oui.
C'est
bah,
ça.
Moi je le frappe pied de toute façon. Des facteurs de croissance. Si vous voulez, c'est la seule solution qu'a trouvée l'industrie pharmaceutique pour fabriquer des grosses molécules, des grosses protéines. Et l'idée in fine, c'est de faire produire ces molécules qui, pour l'instant, sont produites par des organismes, par des animaux, par des micro-organismes, pardon, génétiquement modifiés, c'est de faire produire ça par des plantes. Pour une raison simple, c'est que les plantes, en général, font exprimer leurs gènes à peu près de la même façon que nous. C'est-à-dire, quand un gène exprime une protéine, les protéines, on leur rajoute un petit quelque chose dessus. Et ce petit quelque chose, qu'on appelle des sucres, voilà, ce petit quelque chose, les plantes savent le faire. Or, les animaux ne le font pas. Donc, comme elles savent le faire, les protéines ressemblent beaucoup plus aux nôtres. Donc, l'idée, c'est de faire produire, par exemple, de la lipase pancréatique qui est indispensable à la vie des malades atteints de mucoviscidose, c'est de la faire produire non plus par des cochons modifiés, mais par du tabac, par exemple, génétiquement modifié.
D'accord. Alors ça, c'est pour, on va dire, la partie médicale. Alors sur le papier, on pourrait se dire, la transgénèse, ça permet de tout envisager. Le code génétique étant universel. Voilà. Alors après, ça a donné des tas de choses. Ce que l'on connaît, évidemment, popularisé par Marie-Monique Robin, donc c'est le Mont 810. Donc là, c'est un peu le croque-mitaine de nos consciences. C'est comme ça que vous le présentez. Oui. Qui est vraiment le leader incontesté des OGM d'une variété de maïs qui est capable de résister à son pire ennemi, qui est donc la pyrale. Mais est-ce que quand même cette plante peut se défendre contre ce parasite
Oui et non. Il y a certaines variétés du maïs qui résistent plus ou moins. Globalement, le maïs ne peut pas y faire grand-chose. Une fois que la pyrale a pondu dedans, c'est foutu. Donc l'idée, effectivement, c'était de mettre dans le maïs ce qu'avant on pulvérisait sur lui, c'est-à-dire l'insecticide qui tue la pyrale du maïs. On y est arrivé. Simplement, si vous voulez, auparavant, la pyrale était confrontée de temps en temps à l'insecticide qui le tuait. De temps en temps et un peu au hasard. Donc, elle avait du mal à s'habituer, cette pyrale. Aujourd'hui, la pyrale est confrontée en permanence à cet insecticide, vu que cet insecticide, elle le mange en permanence. Et donc, ça a accéléré quoi ? La sélection naturelle. Et donc, ça a favorisé l'apparition d'une résistance. L'apparition des résistances est un phénomène naturel. Simplement, avec les OGM, vu que la confrontation avec l'arme, entre l'arme et le bouclier est permanente, eh bien, le bouclier s'est adapté, il s'est renforcé. Et la pyrale, aujourd'hui, certaines souches entre guillemets, de pyrale sont devenues résistantes. Et donc, il faut recommencer. Mais ça tombe bien, Monsanto fait signer des contrats couplés entre le Monsanto 810 et l'insecticide.
Oui.
Voilà. À chaque fois
qu'on est obligé, on est ligoté avec ça.
Comme ça, les agriculteurs sont complètement ligotés. Et puis, une fois que ça ne marche plus, même en augmentant les doses d'insecticides ou en changeant d'insecticides, eh bien, le contrat les oblige à acheter la variété suivante améliorée et ainsi de suite. C'est une course sans fin.
D'accord. Donc, ça veut dire, ça sert à quoi, là, ça ? L'intérêt de ces OGM, là,
l'intérêt de cet OGM, bah, c'est d'éviter... Il y a un intérêt environnemental réel. C'est qu'on diminue, on atténue le nombre de pulvérisations à l'année. C'est déjà très bien pour les agriculteurs parce qu'ils sont moins confrontés à ce qui pourrait les tuer. A priori, c'est bien pour l'environnement, sauf qu'au bout de 2-3 ans, il faut recommencer.
Oui. Alors, on a toujours cet argument qui est c'est utile pour nourrir le monde. peut-être rappeler que c'est peut-être pas un problème technique pour nous.
Si les gens mangent mal, s'il y a 1,5 milliard de personnes qui mangent très peu dans le monde, et s'il y en a 800 millions qui mangent beaucoup trop, dont nous faisons partie, c'est un problème d'allocation de la ressource. On a largement de quoi nourrir tout le monde, simplement. Vous savez, quand des gens meurent de faim, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'OGM, c'est parce que, d'une façon ou d'une autre, quelqu'un a décidé qu'il devait mourir de faim. Parce que les camions, parce qu'il n'y a pas de silos, parce que les silos appartiennent à des gens qui n'ont pas envie de les ouvrir, parce que les camions ne vont pas jusqu'aux populations qui en ont besoin, c'est avant tout un problème de distribution. Et puis après, c'est juste un problème de petits outils, de petits sacs d'engrais que les agriculteurs pauvres n'ont même pas les moyens de s'acheter. La pauvreté dans le monde, c'est avant tout celle des agriculteurs qui produisent ce qui devrait les nourrir. Mais ils sont souvent trop pauvres pour avoir ne serait-ce qu'une bêche ou un sac d'engrais. Ils n'ont pas besoin d'OGM.
Le paradoxe, c'est que ceux qui meurent de faim sont des agriculteurs et des paysans.
En très grande majorité, oui.
Enfin, qui est la majorité de la population aussi en termes de travail.
Bien sûr. Et très souvent, ces gens n'ont pas accès au crédit, n'ont pas de moyens. Et donc, ils ne peuvent que racler un petit peu la terre et confier leur vie, leur survie aux aléas de la nature, tout simplement.
Alors, nous avons en ligne quand même Jean-Marie Pelt en direct de la Lorraine. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour.
Voilà. Alors, vous entendez un petit peu cela, Jean-Marie. Oui. Donc, donnez-nous votre sentiment. Bon, on va quand même rappeler que vous appartenez au CRIGEN. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout, vous êtes toujours milité donc, contre les OGM. Le comité de recherche indépendant sur le génie génétique. Vous connaissez très bien Gilles-Éric Séralini. Donc, quel est un peu votre sentiment aujourd'hui?
Mais d'abord, j'ai été frappé d'avoir été comparé à Gregor Mendel.
Oui.
J'ai aussi tout d'un coup réalisé ce que je n'avais jamais réalisé, que la publication première de Mendel avait eu lieu en 1866. C'est l'année où on a inventé, où Ernst Haeckel a inventé le mot écologie.
Eh oui,
et c'est étonnant. Alors évidemment, l'irruption de Gilles-Éric, qui est un ami, dans la polémique...
Dans le débat, quoi, voilà, oui.
A été brutale et a été très médiatisée. Ce qui en a énervé plus un. Il s'est fait des ennemis, bien entendu. La question est-ce que dans son travail, il y a des éléments nouveaux? Et la réponse est oui. Et oui, parce que je crois qu'il y aura une période d'avant Gilles-Éric et une période d'après. Je pense que grâce à son étude, les expérimentations, donc avant la mise sur le marché d'un nouvel OGM, seront plus approfondies. Donc ça, c'est un point qui est, à mes yeux, très important. Deuxièmement, ça met en cause les systèmes d'homologation, les agences, soit des États, soit de la Communauté européenne pour l'Europe. On a discuté à l'infini des conflits d'intérêts qui existaient au sein des gens qui sont dans ces agences, qui sont des spécialistes, dont on ne va pas contester les capacités, mais qui ont tendance évidemment à pencher du côté du manche. Donc ça aussi, c'est un point...
Et qui ont travaillé dans certaines fées ou bien après qui y retournent.
Bien sûr, bien sûr. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui doit changer. Il faut qu'on aille, alors ça c'est une idée forte du CRIGEN, vers une expertise... plutôt contradictoire avec donc la thèse de certains scientifiques et la thèse d'autres scientifiques pour une homologation, et puis ça se passera comme ça se passe en justice avec des positions différentes qui seront confrontées pour aboutir soit à une synthèse, soit au contraire à un rejet ou à une autorisation d'un nouvel OGM. Donc, tout ça, c'est des facteurs très positifs. Alors, je suis tout à fait d'accord avec notre ami pour dire que les OGM rendent beaucoup de services en thérapeutique. Je suis pharmacien, vous le savez bien. Je connais bien l'histoire et de l'EPO et aussi de l'insuline. Dans ce domaine-là, il n'y a pas de contestation. Alors, c'est le monde, effectivement, des bactéries qui est en jeu. Les bactéries s'échangent librement leurs gènes naturellement, ce que ne font pas les êtres pluricellulaires. Les bactéries sont des cellules minuscules où les gènes se baladent directement dans le cytoplasme et ces gènes s'échangent naturellement. Quand on fait un OGM bactérien, il est quasi naturel.
Alors, je reviens vers vous dans quelques instants, Jean-Marie. Je me retourne vers vous, Frédéric Danhé. Dans votre ouvrage, moi, je rebondis dessus sur ce que disait Jean-Marie Pelt, réformer l'expertise. Ça, pour vous, c'est une chose... Enfin, il n'y a pas que sur le domaine des OGM, d'ailleurs.
Mais... Ah bah, c'est sur le domaine des OGM, sur le domaine, de façon générale, des pollutions que j'ai appelées invisibles dans un autre bouquin. C'est tout ce qui concerne ces agents qu'on ne voit pas, qu'on a du mal à cerner, qu'on a du mal à suivre, qu'ils soient chimiques ou biologiques, pour lesquels on est en manque criant d'expertise en France. Et effectivement, la publication de Séralini aura au moins servi à ça, à donner une lumière crue sur un problème qui, pour l'instant, ne fascinait ni les politiques, ni les grands publics. On est en France en manque cruel d'expertise. On n'a pas renouvelé des postes d'écotoxicologues. Pour la question de la toxicité des OGM, on n'a pas en France, suffisamment de gens capables de faire ce qu'on appelle la pharmacogénomique, c'est-à-dire capable de voir sur un génome comment le génome a réagi à un agent toxique, qu'il soit génétique ou qu'il soit chimique. Et puis effectivement, il y a un problème de confiance. Quelle confiance on accorde aux spécialistes dans les agences sanitaires, mais aussi dans les ONG.
Oui, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'une ONG, on va dire anti-OGM, peut trouver autre chose que des faits anti-OGM? Et est-ce qu'une entreprise semencière peut publier autre chose que sa propre publicité à sa gloire?
Bien sûr que non. C'est très difficile. C'est d'autant plus difficile que les médias, enfin en tout cas pas France Inter, que les médias aiment les choses caricaturales et qu'une ONG doit forcément être excessive d'un côté face à un Monsanto ou un industriel forcément excessif de l'autre côté. Mmh. Et donc, c'est un peu désarmant, et ça on le sent quand on rencontre le public, on a de plus en plus de gens qui ne savent plus quoi croire. Et ce qui est terrible, c'est qu'on devrait croire en la science, mais on n'y croit même plus, parce qu'on a l'impression que la science, on lui a fait dire ce qu'elle n'a jamais dit avec la publi de Séralini.
On poursuit ce voyage, mais en musique, avec Laura Mvula.
Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight. Don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden.
Oh wow, oh wow, oh wow, oh wow.
And I'll fly on the wings of a butterfly, high as a treetop, down again. Putting my bag down, taking my shoes off. Walk on the carpet, a green velvet. It's okay now, bathe in the sunlight, don't
Voilà, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur France Inter, c'est au de mon amour, donc les OGM, vous l'avez compris. Mais, au milieu de tout cela, bah oui, on a aussi notre page nature. Donc, on va revenir avec Frédéric Danhé sur ces organismes génétiquement modifiés. Mais auparavant, Frédéric, vous avez aussi bourlingué un peu partout en France. Vous connaissez l'Aubrac, me semble-t-il.
Ben oui, l'Aubrac, mais vous savez, même la recherche s'intéresse aux vaches pour les transformer génétiquement d'une façon ou d'une autre, parce qu'il n'y a pas que les OGM, il y a d'autres techniques, pour peut-être demain vendre non plus de l'Aubrac, mais de la viande tendre, ou de la viande juteuse, ou de la viande dure.
Et des vaches sans cornes. Allez, on y va. Alors, vous imaginez ce plateau qui est bosselé, une steppe qui est assez unique. Hein. Vous avez une couche de granit et puis après, vous avez du basalte. Nous sommes où ? Eh bien, nous sommes dans le département de la Lozère. On est non loin de Nasbinal. Bon, notre partie, évidemment, avéronnaise. Nos amis avéronnais vont dire, mais quoi, l'Aubrac, c'est aussi chez nous ? Mais oui, c'est aussi chez vous. Même une petite pointe cantalienne. Tiens, allez, voilà. C'est, en gros, c'est quand même la Lozère et l'Aveyron. Et donc, c'est un lieu qui est fait où on voit, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit des forêts, des pâturages. Il y pousse du caillou qu'on a ramassé pour faire des clôtures. Il pousse des vaches à la belle saison, des forêts de hêtres, des marcheurs, des fleurs. Et les prés passent en quelques jours du jaune des jonquilles au blanc des narcisses en cette période. Et le narcisse, là, nous intéresse bien. On va en parler. On va les cueillir avec un homme qui s'appelle Gonzalo Diaz, qui est guide accompagnateur donc, de moyenne montagne, rando Aubrac. Et cet homme-là nous raconte, on va dire, à la fois l'économie et la culture du narcisse. Pas très loin de la Daumerie, pas très loin de Nasbinal.
Alors les narcisses, le narcisse des poètes, c'est une des trois plantes à forte valeur économique qu'on trouve sur le plateau de l'Aubrac et qui depuis des décennies est valorisée d'une façon assez curieuse. C'est une plante qui est utilisée comme fixateur à parfum.
D'accord.
Début du printemps, un mois après grosso modo la floraison des jonquilles, ces narcisses poussent par millions sur les prairies de Foch. Et on a trouvé cette façon de valoriser ces fleurs qui poussent à l'état naturel en ramassant, en collectant les fleurs et en les expédiant sur une petite usine de transformation à Aumont-Aubrac qui fabrique une pâte cireuse qu'on appelle la concrète, qui ensuite sera transformée en absolu de narcisse.
Ah.
Alors pour vous donner une idée...
Là on a les cueilleurs. Après, ils vont le revendre.
Voilà.
Ils vont le revendre combien ?
Il y a des collecteurs. Alors chaque année, il faut savoir qu'il y a, selon les conditions climatiques, il y a plusieurs dizaines à plusieurs centaines de têtes de fleurs de narcisse qui sont collectées sur le plateau par les propriétaires des parcelles. Et en gros, l'année dernière, en 2012, ça a été une année relativement intéressante puisque le kilo de fleurs de narcisse s'est négocié autour de 1,80 €.
D'accord.
Bon, c'est quand même tout à fait respectable. Et par contre, il faut savoir que pour faire 1 kg d'absolu de narcisse, qui est le nectar absolu pour la parfumerie de haut de gamme, il faut quand même 1,5 tonne de fleurs.
Cet élixir, après, va sortir à combien ?
Ça sort à plusieurs dizaines de milliers d'euros, le litre, puisqu'on rentre après dans toute l'alchimie des parfums et les narcisses servent de base fixante pour fixer les différentes connotations des grands parfums quoi, que l'on connaît tous.
Ce qui est quand même un peu surprenant, c'est de se dire que les Américains se sont intéressés à cette affaire et qu'on l'a laissé partir.
Autant on a loupé le coche avec les narcisses, autant sur une autre plante emblématique comme les gentianes ou le thé d'Aubrac. Alors les gentianes, on a des entreprises locales qui extraient le rhizome pour fabriquer des produits pharmaceutiques ou des liqueurs apéritives ou digestives, type, pour ne pas citer de marque, des boissons à base de racines de gentiane. Hein. Voilà. Par contre, le petit dernier...
C'est le thé d'Aubrac.
Le fameux thé d'Aubrac, qui est une plante que l'on trouve dans les traits légèrement clairsemés et qui fleurit au début du printemps avec de très belles fleurs mauves. Et cette plante faisait l'objet d'une cueillette traditionnelle depuis fort longtemps. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que les premières utilisations du calamar à grandes fleurs, c'était pas du tout à usage humain, c'était à usage vétérinaire.
Ouais.
Aussi curieux que ça puisse paraître. Lorsqu'une vache venait de véler et qu'elle avait un peu de mal à se relever, on faisait bouillir un seau d'eau chaude dans lequel on plongeait du calamar à grandes fleurs et puis on lui faisait voir ça avec une poignée de sucre ou un peu de miel, histoire de la requinquer.
Et ça marchait.
Et ça marché, voilà, c'était des produits maison. Après, c'est devenu une infusion intéressante, sédative, digestive, avec un parfum léger, relativement agréable. Et alors depuis maintenant 2-3 ans, cette plante qui faisait l'objet d'un, faut bien appeler les choses par le nom, d'un pillage écologique, puisque il y avait des gens qui venaient un peu partout ramasser de façon abusive cette plante dans son milieu naturel et la commercialiser à des prix exorbitants, a fait l'objet d'une sorte de recadrage à travers une association qui essaie de valoriser cette culture selon des critères bio et puis aussi de ne pas la prélever dans l'environnement mais de la cultiver.
D'accord.
Et chaque producteur associé à cette démarche-là reçoit 300 plants, pas une de plus, pas une de moins, histoire d'ensuite de produire selon des critères éthiques. Cette plante est valorisée à travers donc, des boissons, apéritifs, digestifs, des infusions, mais aussi toute une série de produits dérivés, des savons, des parfums et même des petites meringues parfumées au thé d'Aubrac.
Alors Gonzalo Diaz, on va laisser donc nos ramasseurs là qui sont loin avec leur poney ou leur âne. On a le son là quand même du Bess qui est extraordinaire là aussi, qui est quand même une rivière presque centrale ici de l'Aubrac.
Oui, complètement, c'est un petit peu la rivière mère du plateau qui draine à travers tout un réseau relativement complexe toutes les eaux de pluie et de fonte des neiges de ce plateau en direction de la Truyère. C'est le ruisseau, le ruisseau originel du plateau de l'Aubrac. Dont d'ailleurs le nom remonte à la période celtique, puisque le mot Bess rappelle une divinité celtique, une déesse celtique.
Ça rappelle le bouleau aussi.
Et oui, et ça a donné également le nom au bouleau, oui. Qui est un arbre très répandu sur ces grandes tourbières qui bordent le cours de cette rivière. Ouais.
Et quand on parle de l'Aubrac, quelle est l'origine du mot Aubrac?
On a une origine étymologique qui serait alto-braco, qui voudrait dire un lieu élevé, un haut lieu, qui correspond en fait à l'altitude moyenne du plateau, qui se situe au-dessus de 1300 mètres. C'est un nom qui est quand même relativement peu répandu dans la toponymie, qui est peu utilisé aussi en tant que patronyme.
Et alors là, on est sur un début de soirée extraordinaire. Il y a du soleil. Le bleu, là, qu'est-ce qu'on vient de voir, là, effectivement, un faucon ou
un cresserelle, oui.
Un cresserelle, oui, c'était ça.
Un faucon cresserelle, oui. Et là aussi, on baigne au cœur de cette lumière si particulière du plateau de l'Aubrac. On a des vraiment, tout au long de l'année, des lumières extraordinaires. Et cette période de fin d'après-midi est tout à fait propice pour ces éclairages. Ce sont les deux qualificatifs vraiment qui collent à la peau de ce plateau. C'est un pays de lumière et de vent. Oui.
Voilà donc cette promenade au milieu des narcisses, qui n'était pas, Frédéric Danhé, des narcisses génétiquement modifiées, a priori.
Ça pousse tout seul.
Non, mais ils y touchent pas.
Ils ont raison.
C'est un lieu extraordinaire que vous connaissez. Si vous êtes marcheur, si vous faites le sentier de Compostelle, eh bien vous passez par l'Aubrac, c'est une des routes. Et puis donc merci à Gonzalo Diaz. On va poursuivre un tout petit peu ce voyage. On l'a dit tout à l'heure déjà un peu avec les agriculteurs, l'agriculture de demain. Qu'est-ce que ça va être quand même? Parce que les gens se rendent bien compte aussi que c'est aussi un peu une espèce de marqueur du productivisme, ça, les OGM.
Si on tape comme des sourds sur les OGM, en particulier les OGM Monsanto, c'est parce qu'on a transformé l'OGM en bâton totem sur lequel on tape pour en fait dire à l'agriculture qu'on a envie qu'elle change. Mais c'est plus facile de taper sur des OGM que de remettre en cause complètement le monde agricole et le mode de production agricole. Les OGM, il faut bien comprendre que tels qu'ils sont aujourd'hui, n'ont pas beaucoup d'intérêt. Leur seul intérêt, c'est de faire perdurer le modèle productiviste qui ne peut plus perdurer avec la chimie à cause des contraintes réglementaires environnementales et parce que le prix des intrants chimiques est de plus en plus élevé. Voilà, donc les OGM, la transgénèse, c'est une façon de continuer le productivisme par les biotechnologies plutôt que par la chimie. Voilà, c'est juste, ça ne veut pas dire que les OGM sont mauvais, il y en aura peut-être des bons plus tard, mais en tout cas, ceux qui sont là, c'est juste ça. Mmh. Et alors, l'alternative, ce n'est pas OGM ou bio. Parce que ça, en France, on aime bien.
C'est oui, débat, oui, bien non, sûr.
Évidemment, on est. Voilà, c'est pas OGM ou bio, c'est une autre mode de production agricole, oui. Comme on vient de le voir avec les narcisses. Voilà, c'est une réflexion globale sur l'usage des sols finalement et l'usage des variétés des races domestiques.
On va poursuivre encore sur les OGM, mais auparavant, Frank Sinatra, bien aussi. Hein.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality, get up, wake up to reality. Because I've got you under my skin, and I like you under my skin.
Bien, cette romance de Frank Sinatra datait de 1956. Je vous laisse faire le calcul. OGM, le vrai du faux, Frédéric Danhé. Nous avons fait quand même cette incursion qui nous a fait du bien sur le plateau de l'Aubrac. Alors, pas mal de questions. Alors, d'abord, vous n'hésitez pas sur le site de franceinter.fr. CO2, mon amour. Et là, allez-y, vous laissez vos commentaires, vous commentez entre vous, vous vous répondez. C'est le principe de toutes les émissions. Donc, ceci est ouvert. Et Frédéric Danhé, on a un certain nombre de questions qui sont arrivées en ce qui concerne la dispersion. Qu'est-ce que l'on peut dire des OGM, la contamination des autres champs?
Elle est inévitable, elle est avérée depuis quelques années. Depuis le cas, c'était en 2004, d'un gazon transgénique qu'on a retrouvé à 4 km de l'endroit où il a été planté. La dispersion, elle est inévitable. Voilà. On ne pourra pas l'éviter. On pourrait l'éviter si Par exemple, les gènes transformés n'étaient codés que par des, ce qu'on appelle des organites, des petites usines qui sont à l'intérieur des cellules, qui ne se transmettent que de femelle à femelle. Comme ça, on ne les retrouve pas dans le pollen. Mm-hmm. Donc, mettre ça dans les mitochondries et les chloroplastes. Ou alors, faire en sorte que les hybrides, les éventuels hybrides OGM, non-OGM, soient stériles. C'était ce que Monsanto avait proposé avec la génération Terminator, contre laquelle l'ensemble du monde agricole s'est levé, parce que, évidemment, ça empêchait de replanter. Voilà. Mais dans l'état actuel des connaissances des OGM, il y a une dispersion inévitable. Donc un risque de contamination génétique.
Quid de l'étiquetage pour les particuliers que nous sommes ?
Alors l'étiquetage, il ne faut pas trop en tenir compte parce que tout produit comportant des OGM comporte en fait 0,9% de composés OGM dans sa formulation et tout produit estampillé non OGM doit comporter moins de 0,1% de produits OGM.
Compliqué, là.
C'est très compliqué, les outils de mesure sont très difficiles. Puis il faut savoir que compte tenu du marché des céréales, on l'a évoqué tout à l'heure, la plupart des produits qui sont à base de maïs et de soja, et donc d'une certaine façon les produits carnés et laitiers, comportent de toute façon des OGM. Donc regardez bien sur les étiquettes, tout ce qui est à base de maïs et de soja, il y a de très grandes chances qu'il y ait des OGM dedans. C'est les produits apéritifs, c'est la pâtisserie industrielle, c'est ce genre de produits, les cornflakes par exemple. Voilà, les OGM sont déjà dans notre assiette de toute
Alors,
façon.
Alors, est-ce mauvais pour la santé de l'homme ? Donc, on se souvient de ce titre du Nouvel Observateur, « Oui, les OGM sont des poisons ». Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui ?
On ne peut strictement rien dire. Oui. On n'a pas assez de recul, on n'a pas assez d'études. Voilà, c'est tout. On ne peut rien dire. Est-ce que les OGM sont dangereux ? Oui, non, on ne sait pas. Donc, frapper sur les OGM avec l'argument de la santé, c'est au moins en termes de communication pour les ONG, c'est très mauvais parce qu'il n'y a pas de preuves. Il y a des preuves ni pour ni contre. Alors l'argument qu'on donne toujours, c'est aux États-Unis, on utilise des OGM depuis 20 ans, il n'y a pas de souci de santé. Oui, mais comme il n'y a pas d'étiquetage, on n'a pas de population test qui n'a pas mangé d'OGM pour valider les tests statistiques. C'est vrai. Sauf que les États-Unis sont un pays qui pratique beaucoup d'épidémiologie et je pense quand même que s'il y a eu des problèmes de santé et chez les vaches qui sont nourries aux OGM depuis des années et chez les hommes, je pense qu'on le saurait. Mais en moyenne,
point d'interrogation,
point d'interrogation, faut 30 ans de recul.
Allons vers la Lorraine natale de Jean-Marie Pelt, peut-être sur ce thème ou bien d'autres sujets, toujours sur les OGM, Jean-Marie ?
On parle d'OGM, le Connecticut aux États-Unis a été le premier État des 50 États qui a exigé désormais qu'on étiquette les OGM. Ça, c'est tout à fait nouveau et c'est une retombée de l'étude de Gilles-Éric Séralini. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette émission, c'est qu'on a rencontré les gens de l'Aubrac, qu'on a ici une exploitation très modeste, où le mot exploitation même ne colle pas tout à fait, de plantes naturelles. Alors c'était le narcisse, le calamant, la gentiane, etc. Ces plantes sont à la disposition de tout un chacun. Elles ne sont pas protégées, mais vous avez signalé une association qui veillait à ce que les gîtes naturels ne s'épuisent pas et qu'on puisse cultiver le calamant. Donc c'est une manière très douce, en fait, d'être en rapport avec ce que la nature nous offre, par opposition à ces grandes multinationales qui sont les seules à avoir les moyens scientifiques et technologiques de fabriquer des OGM, qui les protègent par des brevets et qui ont de vastes ambitions. Dieu sait qu'on a entendu que Monsanto voulait nourrir le monde.
Oui.
C'est une ambition évidemment complètement démesurée, car celui qui nourrirait le monde aurait le monde à sa botte. Donc en aucun cas on ne pourra imaginer cela. Donc il y avait ici ce beau contraste et je me suis senti très à l'aise avec les plantes médicinales de l'Aubrac. Dernière remarque, je crois qu'il faut quand même dire que l'étude de Gilles-Éric Séralini pose une question majeure en ce qui concerne l'impact sur la santé. Vous disiez, cher monsieur Danhé, qu'on ne sait pas, on ne sait pas grand-chose parce qu'on n'a pas fait les bons tests. Vous avez parlé d'écotoxicologie, nous avons fondé ce mot avec mon ami Jean-Michel Joigny il y a maintenant 50 ans. Nous manquons de capacité, effectivement, de mener ces enquêtes préalables aux mises sur le marché, mais aussi de vérifier la toxicologie. Ce sont des études qui coûtent cher, qui prennent beaucoup de temps, et il faut renforcer, évidemment, la formation dans ces domaines-là, parce que nous n'en saurons plus que quand nous aurons beaucoup expérimenté ce qui n'a pas été le cas avant le travail de Gilles Héric.
Eh bien, merci beaucoup, cher Jean-Marie Pelt, Frédéric.
Oui, il a raison, évidemment. C'est le grand mérite de la pubie de Serralini, nonobstant tout ce que j'ai dit en préambule. On manque de spécialistes, on manque de temps, on manque d'argent, on manque d'études. Néanmoins, des spécialistes, on en aura d'autant moins qu'on continuera à avoir cette position hystérique anti-OGM qui fait peur aux chercheurs du public pour travailler sur les OGM. Faut pas noyer le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce que les OGM d'aujourd'hui n'ont strictement aucun intérêt qu'il faut s'empêcher de chercher. Au moins pour une bonne raison, c'est que si nous on ne cherche pas, Monsanto continue à chercher. C'est Monsanto qui embauche des botanistes aujourd'hui. C'est Monsanto qui embauche des écotoxicologues. Face à Monsanto, il faut bien qu'il y ait une recherche publique. Il faut bien qu'il y ait d'autres personnes qui cherchent pour au moins comprendre les publications scientifiques et au moins comprendre les produits qui arrivent sur le marché. Si on n'a pas d'études, si on n'a pas de chercheurs capables de comprendre ça, eh bien, on ne fera que regarder le train passer et on se verra imposer une agriculture qu'on n'a pas envie d'avoir.
Vous parlez d'ailleurs du gène des peurs collectives. Alors, je vous renvoie donc à cet ouvrage « OGM, le vrai du faux » de Lachaud et Nieslief, signé Frédéric Danhé. Donc, vous avez bien compris hein, l'état d'esprit. C'est vrai que ce n'est pas simple parce que, vous l'avez dit, en France, on est pour, on est contre, on est pour contre le nucléaire, on est pour ou contre les OGM, enfin, etc.
Et donc, pendant ce temps-là, le débat n'avance pas et c'est au profit de qui ? De Monsanto.
Alors, merci à vous. Michel Thomas et Grégory Vallon étaient à la technique. Aude-Émilie Judaïque, notre assistante. Christophe Imbert réalisait l'émission. Merci encore à Albert Houck. À Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. La semaine prochaine, donc, ce sera Yann Kefelec. On risque de parler de Bretagne hein, quand même, oui, qui sera le rédacteur en chef de cette émission. Je vous emmènerai au Cap Sizun. Vous avez des mouettes tridactyles. Vous verrez cela. Et l'actu du bon petit loup, ce sera demain à 19h54 après les petits bateaux. Et demain à 15h, n'oubliez pas, vivre avec les bêtes avec Alain Bougrain-Dubourg.